Séoul, au jour le jour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Avez-vous déjà pensé qu'on gaspillait du papier en échangeant des cartes de visite? Surtout dans les entreprises où les changements de poste sont fréquents, refaire des cartes à chaque fois représente à la fois un coût non négligeable et un souci pour l'environnement. Pour résoudre ce problème, l'arrondissement de Chungno a introduit, le 1er août, des cartes de visite numériques pour ses employés. C'est une première parmi les collectivités locales de Séoul. Nous commençons l'édition de ce mercredi avec cette nouvelle. L'initiative de l'arrondissement de Chungno vise à réduire les coûts de production de cartes de visite papier, souvent renouvelées en raison des réaffectations de personnel, ainsi qu'à contribuer à la protection de l'environnement. Durant l'année écoulée, l'arrondissement en a fabriqué plus de 160 000 pour un coût d'environ 20 millions de won, soit 13 000 euros. Grâce à cette nouvelle mesure, il prévoit d'économiser chaque année environ 7 600 euros et de réduire les émissions de carbone de plus de 300 kg. Les nouvelles cartes sont disponibles en deux formats, horizontal et vertical. Ils intègrent automatiquement les informations personnelles des employés. Ces derniers peuvent les partager facilement via une application mobile ou l'envoyer sous forme de texte. Pour la protection des données personnelles, chacun peut choisir d'afficher ou non son numéro de téléphone portable. Depuis la proclamation de sa vision, Chungno, ville intelligente, en novembre 2023, l'arrondissement s'efforce de mettre en œuvre une administration intelligente perceptible par ses habitants. Il estime que le service de carte visite numérique est un exemple d'innovation administrative qui mène simultanément une conversion numérique et une démarche écologique. Il prévoit d'instaurer un environnement de travail efficace, respectueux de l'environnement, en phase avec une époque où les échanges sans contact sont devenus une pratique courante. Il arrive souvent qu'après le travail, des amis ou des collègues se retrouvent pour prendre un verre. Mais lorsque la soirée est trop arrosée, le lendemain matin est difficile. L'arrondissement de Dongdaemun à Séoul a donc lancé une initiative originale pour promouvoir des soirées plus saines avec alcool modéré. La collectivité locale poursuit un projet visant à encourager les citoyens à boire avec modération. Dans ce cadre, elle a désigné la rue gastronomique près de la station de métro Changhanpyeong comme rue de prévention de l'ivresse complète. Une dizaine de restaurants et de bars participent à diverses actions en faveur d'une culture de consommation d'alcool plus responsable. La mairie de l'arrondissement a ainsi fabriqué et distribué des demi-verres avec le slogan « un demi-verre comme un verre entier ». Leur taille correspond à peu près à la moitié de celle des verres à bière ou à soju ordinaire. Objectif, responsabiliser les établissements qui vendent de l'alcool, inciter les gens à mieux gérer leur consommation de boissons alcoolisées et prévenir l'ivresse complète. De plus, des brochures seront remises aux professionnels de la restauration pour sensibiliser à l'importance de la fourniture responsable d'alcool. Et des affiches portant des messages de modération seront apposées à l'intérieur des établissements concernés. D'autre part, afin de renforcer la coopération locale, la mairie envisage de mettre en place un organe de concertation réunissant l'Association de la restauration de Corée, les commerçants et la police. La semaine dernière, en matinée, plus de 500 Cambodgiens se sont rassemblés devant le pavillon de Puchingak au cœur de Séoul. Ils ont brandi des drapeaux de leur pays ainsi que des pancartes sur lesquelles étaient inscrites des phrases en coréen telles que « Nous condamnons l'armée thaïlandaise » ou arrêter l'agression. Ils sont descendus dans la rue pour faire connaître à la société coréenne les affrontements armés entre le Cambodge et la Thaïlande liés à un différend frontalier. Le même jour, dans l'après-midi, une autre manifestation s'est tenue à environ 2 km de là, devant la sortie 3 de la station de métro Haewa. Environ 300 Philippins s'y étaient réunis, brandissant des drapeaux de leur pays et des portraits de l'ancien président Rodrigo Duterte. Ils ont crié des slogans en coréen réclamant sa libération. Ainsi, le centre de Séoul est en train de devenir une scène de protestation internationale pour les étrangers vivant en Corée du Sud. Avec la rapide internationalisation de la capitale, où sont concentrées de nombreuses entreprises multinationales et organisations mondiales, la ville semble se transformer en un espace de débat public qui permet aux étrangers de faire connaître les problèmes de leur pays. L'année dernière, le nombre d'étrangers résidant au pays du matin clair a dépassé 2,6 millions, soit 5,2% de la population totale. En 10 ans, ce chiffre a augmenté de 150%, soit presque le double de la proportion observée au Japon. Selon Global Power City Index, un indice majeur évaluant l'influence internationale des principales villes mondiales, l'an dernier, Séoul s'est classé au 6e rang en termes de compétitivité urbaine. Un sociologue a noté que la capitale sud-coréenne était devenue un centre majeur de diffusion des informations vers différents pays. Selon lui, pour les étrangers, originaire de pays où la liberté d'expression est limitée, Séoul sert de lieu d'expression pour faire entendre leur voix. Par exemple, un Chinois ayant participé à une manifestation contre son gouvernement a déclaré qu'en Chine, où la liberté d'expression est fortement contrôlée, un tel rassemblement est impensable. Il a ajouté qu'il voulait profiter de cette occasion pour s'exprimer en faveur de sa patrie. Ce type d'événement a eu lieu principalement le week-end. Cela s'explique par le fait que nombreux étrangers vivant en banlieue ou en province montent à Séoul pour l'occasion. Ils y participent en espérant que, s'ils y font entendre leur voix, la communauté internationale en sera rapidement informée. À ce propos, certains expriment des inquiétudes quant au risque que la Corée du Sud soit impliquée dans des conflits étrangers. Par exemple, en juin dernier, des Iraniens et des partisans de la Palestine ont manifesté près de l'ambassade d'Israël. Ils ont dénoncé le conflit au Moyen-Orient et l'intervention militaire des États-Unis en Iran. Ce qui a conduit la police à renforcer la sécurité autour de l'ambassade. De plus, en février, des Russes et des partisans de l'Ukraine ont organisé des rassemblements rivaux devant l'ambassade de Russie. Cela a provoqué un climat de tension assez palpable. Avant d'enchaîner avec le prochain élément, écoutons une chanson. Voici « Ne mal droba, écoute-moi » de Position.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 6 août, vous êtes en compagnie de Ko Jang-sun. Quand on traverse un parc désert la nuit, on ressent parfois une certaine inquiétude et jette un coup d'œil autour de soi. Pour apaiser ce sentiment d'insécurité ressenti par les citoyens, la police a trouvé une méthode originale. Il s'agit d'installer un policier en hologramme. La nuit, dans le parc Jeodong 3, dans l'arrondissement de Chungu à Séoul, un policier en uniforme d'une taille d'environ 1,75 m apparaît soudainement et déclare « En cas d'urgence, la police intervient en temps réel. Cette zone est sous surveillance vidéo. » Ensuite, il disparaît aussitôt. 2 minutes plus tard, il réapparaît et répète exactement la même phrase avant de s'évanouir de nouveau. Le commissariat de Chungbo a mis en place en décembre dernier ce panneau holographique dans le parc dans le cadre du projet « Les parcs plus sûrs de Chungbo ». Selon les autorités, cette initiative porte ses fruits. Après l'installation, entre octobre 2024 et mai dernier, les actes de délinquance dans les environs du parc ont baissé de 22% par rapport à la même période l'année précédente. Ce dispositif a été introduit en tenant compte des caractéristiques de la zone où des troubles ou des violences liées à l'alcool sont fréquents, ce qui nécessite une surveillance particulière. L'image du policier apparaît automatiquement tous les jours de 19h à 22h pour répéter le message. Selon le commissariat, l'hologramme grandeur nature procure un sentiment de sécurité aux passants et contribue à dissuader les comportements qui portent atteinte à l'ordre public. Le panneau a été conçu par une entreprise spécialisée dans la fabrication d'hologrammes et installé en collaboration avec la mairie de l'arrondissement. La police estime que cet agent virtuel aide les habitants à se sentir plus en sécurité et s'impose comme un outil intelligent de maintien de l'ordre. Elle prévoit d'étendre ce type de moyens intégrant les technologies d'intelligence artificielle dans le but de créer des espaces publics que les citoyens peuvent utiliser en toute tranquillité. À partir de septembre, les visiteurs coréens de la basilique Saint-Pierre au Vatican pourront bénéficier d'une nouvelle version du guide audio dans leur langue. L'archidiocèse de Séoul et l'ambassade de Corée près le Saint-Siège ont annoncé avoir remis cette mise à jour la semaine dernière à la basilique. Réalisée en collaboration entre les trois organismes, elle est interprétée bénévolement par le célèbre acteur Cha Seung-won. Il existait déjà une version coréenne, mais elle remise au goût du jour pour s'adapter à la réorganisation des expositions et des informations de l'Église. Elle sera officiellement mise à disposition le 1er septembre. Lors de sa cérémonie de remise, tenue au Vatican, l'évêque Yi Gyeong-sang s'est dit heureux que l'archidiocèse de Séoul ait pu participer à ce projet. Il a également exprimé l'espoir que cela apporte une aide pratique à de nombreux pèlerins coréens. De son côté, le cardinal Mauro Gambatti de la basilique Saint-Pierre a également manifesté ses attentes pour ce dispositif audio, estimant que celui-ci permettra aux fidèles et pèlerins coréens de vivre une expérience encore plus riche de l'Église. Le chargé d'affaires Lee Jong-woo, quant à lui, a déclaré qu'il était honoré de voir aboutir à cette initiative entamée l'an dernier, avant d'exprimer l'espoir qu'elle serait utile aux visiteurs coréens. Il a également adressé ses remerciements à l'acteur pour sa contribution bénévole, ainsi qu'à Monseigneur Chung Sun-taek, archevêque de l'archidiocèse de Séoul, qui a coordonné et soutenu le projet. En juillet, les Jeux universitaires mondiaux d'été 2025 se sont tenus en Allemagne. Lors de la finale du relais 4x100 mètres masculin, l'équipe sud-coréenne, composée de Son Min-jun, Namadi Chuel-jin, Lee Jae-song et Kim Jong-un, a remporté la médaille d'or. La toute première pour la Corée du Sud dans une épreuve de relais en athlétisme au niveau mondial. Mais ce qui a particulièrement attiré l'attention, c'est le fait que l'un des quatre coureurs, Namadi Chuel-jin, a joué un rôle quand il était enfant dans le drama à succès de la KBS « Les descendants du soleil ». Dans la série diffusée en 2016, il incarnait un jeune garçon du pays fictif d'Ourk. Dans une scène, un médecin en mission humanitaire lui offre une paire de chaussures, mais le garçon répond qu'il préfère recevoir une chèvre à la place. Cette scène est considérée comme l'une des plus marquantes qui illustre les horreurs de la guerre. Elle a laissé une forte impression aux téléspectateurs qui ont donné à l'enfant le surnom de « garçon à la chèvre ». Chuel-jin est né d'un père nigérien et d'une mère coréenne. Sur les conseils de son père, ancien sauteur en longueur, il a commencé l'athlétisme à l'âge de 11 ans. En 2024, il a établi un nouveau record lycéen sud-coréen sur 100 mètres avec un temps de 10 secondes 30. En avril dernier, lors des épreuves de sélection pour les championnats d'Asie, qui était sa première compétition en tant qu'adulte, il s'est classé premier du 100 mètres masculin, révélant tout son potentiel. En mai, lors de la finale du relais 4x100 mètres masculin des championnats d'Asie à Kumi, son équipe a décroché la médaille d'or avec un nouveau record national de 38 secondes 49. La première victoire dans cette discipline pour le pays du matin clair. Le 29 juillet dernier, jour du retour de l'équipe sud-coréenne, après la fin des Jeux universitaires mondiaux, de nombreux journalistes se sont rassemblés à l'aéroport international d'Incheon pour l'accueillir chaleureusement. Le président de la République, Lee Jae-myung, a lui aussi salué leur performance. Il a publié un message sur les réseaux sociaux selon lequel cette victoire du relais représente une réussite particulièrement significative pour l'athlétisme sud-coréen. Dans une interview, Cho Hyejin a affirmé qu'il prouverait sa valeur par ses performances avant d'exprimer sa détermination à devenir un pilier de l'athlétisme de son pays. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité de mercredi présenté par Ohayon. Avant de la rejoindre, je vous propose de partager un des commentaires de nos auditeurs. À propos de l'interview avec Jean-Claude Crescenzo et son épouse, Sonju Bulino a laissé ce commentaire en coréen, 잘 들었습니다, qui se traduit par « Je l'ai écouté avec intérêt ». Merci beaucoup pour ce commentaire. Maintenant, écoutons la dernière chanson de cette édition, « 달리기, la course » de Yun Sang.
Chaque mercredi, vous êtes invité à découvrir une personnalité qui œuvre pour les échanges entre la Corée et le monde francophone. Vous êtes bien au 13 boulevard Yoi et vous avez rendez-vous avec Oh Ha-young et Kim Hong-joo.
Park Chan-hong, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Vous faites partie des 4000 Coréens installés en Suisse. Ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Pour commencer, pouvez-vous nous dire qui ils sont, que font-ils là-bas, et puis nous raconter un peu comment vous êtes parti pour la Suisse.
Merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'en Suisse, d'après le chiffre officiel de 2023, on dit qu'il y a 4100 Coréens qui vivent en Suisse, dont parmi les 4100, il y a 2100 personnes qui sont coréens, parlant coréen et puis qui ont des passeports coréens. Et d'autres, 1900 et quelques, ce sont des gens coréens qui possèdent le passeport suisse.
Comme vous.
Comme moi. Et moi, je suis arrivé en 1982 à Genève. Auparavant, j'ai vécu, entre parenthèses, en Allemagne pendant 6 ans à Göttingen. Et après, j'ai vécu 6 ans en Corée. Donc, j'ai suivi toute ma scolarité primaire seulement. Et en 82, j'ai commencé à l'âge de 12 ans à vivre en Suisse, en suivant mes parents, dont mon père, il travaillait à l'ONU. Et voilà, avec mon petit frère et moi, nous sommes arrivés en Suisse en 1982.
J'imagine qu'à travers ces 40 dernières années, l'image de la Corée et des Coréens a beaucoup évolué auprès des Suisses. Au début de votre séjour au collège, lorsque vous disiez à vos amis que vous veniez de la Corée, comment réagissaient-ils?
Alors c'est vrai que quand je suis arrivé en Corée, alors en Suisse, pardon, à Genève, c'était J'étais un peu vraiment comme un extraterrestre. Mm-hmm. C'est-à-dire, soit on me disait, est-ce que vous êtes chinois, mm-hmm. japonais, mm-hmm. ou soit quand j'ai dit coréen, alors ils disent, c'est du nord ou sud. C'était pas facile à s'identifier parce qu'on n'était pas très connus. Mm-hmm. La Corée était considérée comme un pays pauvre encore à l'époque. Mais quand il y a eu, en 1988, beaucoup de mes amis m'ont parlé des Jeux Olympiques. Il y a eu une démonstration de taekwondo. Mm-hmm. Et là, ça leur a bluffé, ça leur a été, surpris. Tout était synchronisé. Je crois qu'il y avait au moins 1000 personnes qui faisaient ça au stade. Et la Corée commence à être connue. La Suisse, ça prend beaucoup plus de temps par rapport à d'autres pays européens.
Mmh. À votre avis, pourquoi ?
Parce que...
Il y a moins de Coréens ?
Il y a moins de Coréens. La Suisse même, elles sont assez discrètes. Mmh. Tout le monde est neutre. Ils sont très sympas tous, les Suisses. Mmh. Mais on a 4 langues. Mmh. En 5 heures de route, toute la Suisse, on peut découvrir 4 langues différentes. Mmh. C'est un pays où il reconnaît petit à petit la Corée, mais je crois que depuis qu'il y a eu le K-pop, K-drama, K-food, K-beauty maintenant, tout ça, ça a fait connaître les Suisses. Toujours de bon côté.
Toujours de bon côté. Alors, la K-pop était à la mode en Suisse, comme dans de nombreux pays européens.
Oui, j'ai fait quelques reportages pour une chaîne d'actualité coréenne, mm-hmm. et c'est vrai que j'ai pu découvrir les Suisses, les Suissesses, les jeunes qui mm-hmm. dansaient avec les musiques K-pop, mm-hmm. Même en labial, elles chantaient tous en coréen, quoi. Mm-hmm. Elles adorent manger coréen aussi. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un pays qu'on remarque que la Corée n'est plus un pays comme ça, mm-hmm. ni comme ça, et maintenant c'est comme ça. J'ai pu rencontrer une personne qui a vu un drama sur la chaîne Netflix, mm-hmm. et ils ont vu que des gens mangeaient coréen, et mm-hmm. ça leur a donné curiosité sur ces repas coréens. Et puis tout ça, ça fait évoluer...
L'image de la Corée.
L'image de la Corée. Yeah. 오늘은 매콤,
새콤, 달콤. Peut-on trouver facilement des restaurants coréens à Genève ?
Il y en a, écoutez, il y en a eu 5 en moyenne. Mm-hmm. Certains sont fermés, et certains se rouvrent. Mm. Mais,
gérés par des Coréens ?
Il y en a 4 sur 5 et géré par les Coréens, 1 et géré par un Chinois.
Mmh. Voilà. Avec votre épouse, vous avez aussi fait des efforts pour faire connaître la gastronomie coréenne auprès des Suisses, n'est-ce pas ?
Oui, alors ma femme a voulu se lancer dans la restauration ou dans faire connaître les repas coréens. Mmh. Parce que beaucoup de mes amis recommandaient beaucoup des kimchi faits maison mm-hmm. par ma femme. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'elle a commencé à faire le traiteur. Mm-hmm. Et on s'est lancé à une aventure sans trop investir. Mm-hmm. On a pu trouver un restaurant qui fermait le lundi. Mm-hmm. Donc le jour de la fermeture de l'établissement, mm-hmm. on a pu ouvrir que coréen dans un restaurant suisse.
Une sorte de pop-up.
Bah, exactement. Mmh. C'était pas évident parce qu'on ouvrait que à midi.
Mmh. À midi
tous les lundis à midi seulement.
Alors, quels sont les plats qui ont connu le plus de succès auprès de votre clientèle ?
Il y a eu pas mal de commandes typiques, bulgogi, mandu, fait maison, kajideji, au porc, mais agréablement épicé, et au poulet comme takangjong,
caramélisé.
Il y a eu pas mal de commandes, tout ça, mais en général, tout le monde a adoré tout là, ces plats.
Mais pourquoi avez-vous décidé de mettre fin à cette aventure ?
Alors, c'est vrai qu'on n'a plus l'âge de 30 ans. je suis né en 1970, donc c'est un âge plus...
mature.
Voilà, nature. Et on pense à notre santé. Et on s'est dit qu'on va passer à une autre aventure, plutôt que de fermer tout ça. Mais c'est vrai que c'était intéressant pendant 2 ans d'expérience. Mais c'est vrai que la demande, maintenant, c'est tout par smartphone, les commandes et des livraisons. Et on pense se pencher dans cette direction-là.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien avec Park Chan-won. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Koh Jong-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.